Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Alors ça y est, on vient de ranger les dernières balles de foin sous la bâche. On a fait une meule. Donc ça y est, les foins sont officiellement finis pour cette année. Donc je suis assez contente de la saison. Là je vais aller voir mon petit lot de béliers. Béliers et les mâles, parce que ce matin on a déplacé le troupeau. Et il y en a un qui était un petit peu à la traîne derrière. Et j'ai regardé un peu ses muqueuses et tout, il est très pâle. Donc c'est un parasite qui s'appelle Hemoncus contortus, je crois. Donc voilà, là je vais aller le soigner et puis je vais voir comment il se comporte. Bon, c'est un peu le... Quand il y a des étés un peu humides comme ça, c'est souvent, enfin moi en tout cas sur mes parcelles avec mes animaux, c'est souvent que j'ai ce genre de parasite. Donc là je pense que c'est pris relativement... Je sais pas s'il va survivre, on va voir. J'ai l'impression qu'il est bien atteint, mais en même temps je l'avais pas vu décliner, mais c'est un peu le... Disons la spécificité de ces parasites, c'est que ça va quand même assez vite. Donc on va aller voir ça. C'est dans le champ qui monte bien. Donc faut marcher un tout petit peu et monter la pente et normalement je devrais le trouver. Donc j'ai pris l'opi, comme ça je suis sûre de rassembler le troupeau et voilà. Et puis on va aller voir s'il y a de l'eau, tout ça. Et après j'irai voir mon troupeau de maman et de petits agneaux pour eux aussi également les changer de pâture. Et je les emmène dans un champ qui, on appelle ça les vignes. C'est un petit champ pas très grand, entouré de forêts qui est très joli, très ombragé. Et on l'a girobrayé il y a un peu plus d'un mois. Donc la repousse est très très jolie. Il faut que je leur amène de l'eau et puis il sera 17h. Le temps d'aller récupérer la petite à l'accueil de loisir. Bon bah il est debout en fait et il était en train de manger donc je pense que ça devrait aller. Ce que je vous ai pas précisé c'est que la petite côte qu'il faut monter à pied, il a pas voulu la monter. Donc j'ai dû prendre sur le dos. J'ai un peu peiné parce que c'est pas un nouveau-né, il doit faire un peu plus de 20 kg. Donc je l'ai pris comme un sac à dos, disons, en lui tenant les deux pattes avant. Et voilà, bon bah là j'arrive pas à l'attraper. Voilà, viens mon coco, allez, c'est bien. Hop, il faudra que je revienne ce soir, tout va bien. L'opi fini, c'est bien. Voilà, bon il est debout, il mange, c'est bien. Et c'est vrai que c'est assez... Des fois ça va très très vite et on les perd comme ça parce qu'on n'est pas assez vigilant. Mais bon, je pense que ça devrait aller, il est pas... C'est vrai qu'il a les muqueuses pâles mais il est pas amaigri. Voilà, bon bah maintenant je vais aller... aider Hugo à ramasser les patates nouvelles. On est jeudi, mais on a commencé un petit peu les récoltes qu'on fait le vendredi pour la vente du samedi. Donc on a récolté les haricots verts, on a récolté les patates, on a récolté les échalotes. Et voilà. Et là on va finir avec les patates. Bon, on va redescendre la pente. Hop, la porte. Viens l'opi. Voilà. Et dans la petite pente qui descend, il y a le roi des châtaigniers. Alors c'est pas le roi par sa taille ou sa grandeur, mais c'est un petit châtaignier qui est à côté de sapin. Mais il donne les plus grosses châtaignes de la région, enfin de la région, de la ferme quoi. Et cette année avec les pépineuses, j'ai prévu de faire de la confiture de châtaigne. Donc j'en avais déjà fait mais il y a des années au lycée. On avait fait une grosse session entre amis, donc on était plusieurs, mais il y avait quand même beaucoup de châtaignes. Et j'ai été quand même un peu traumatisée par le double épluchage. Donc là, le principe en fait de l'épépineuse, c'est de faire, donc vous faites cuire vos châtaignes entières, vous les incisez, vous les faites cuire et vous les passez à l'épépineuse, ce qui va permettre d'enlever la petite peau sans l'éplucher. Et après, bah, la procédure normale pour la confiture de châtaigne, vous refaites cuire avec un peu de sucre, un petit peu de vanille, et ce que vous aimez, quoi. Donc moi, généralement, à l'époque des châtaignes, c'est vrai que j'en mange. J'adore ça, j'adore vraiment ça. J'en mange pratiquement tous les jours, mais ou cuite à l'eau ou grillée à la poêle à châtaigne. C'est vraiment ce que je préfère. Mais j'aimerais bien en conserver cette année, notamment en confiture, et pourquoi pas faire des châtaignes stérilisées en bocaux, quoi. Et un autre aliment que j'adore et que j'aimerais essayer de conserver cette année, c'est le maïs. Hugo, il m'en a planté pas mal. Il y a deux rangs de 60 mètres et un petit peu dans la serre. Donc j'en mange beaucoup quand c'est la saison du maïs, en épi, tout simplement, cuit à l'eau avec un petit peu de sel, de sucre, très simplement. Et j'aimerais quand même faire du maïs en bocaux parce que nous, on en mange assez régulièrement, donc que l'on achète. Et je me dis que si on en avait du maraîchage, ce serait sympa. Donc on les mange en salade et moi, j'aime bien en mettre aussi sur les pizzas. En parlant de pizza, j'ai découvert une recette assez sympa en fait pour faire une... Je crois que je ne sais pas exactement le terme en français, mais moi j'appelle ça le pain magique. Vous faites avec 1 kg de farine, 15 g de levure sèche ou 30 de levure de boulanger fraîche, 20 g de sel, 700 g d'eau. En fait, vous pétrissez le tout dans un seau que vous pouvez fermer hermétiquement. Vous laissez lever. En ce moment, moi, ça prend à peu près, quand je mets au soleil, ça prend à peu près 2 heures, peut-être 3 heures. Une fois que c'est levé, vous mettez ça au frigo et puis vous pouvez l'utiliser pour faire plein de choses. Donc j'essaierai de vous mettre la référence du livre. Alors c'est un livre en anglais, mais j'imagine qu'il a été traduit en français. J'essaierai de vous mettre les références de ce pain magique parce que c'est vraiment super. Moi, je me fais un seau de pâte en fait, 1 kg de farine et ce que je vous ai dit, et puis je décline ça soit en pain tout simplement ou en galette faite à la poêle, et mon utilisation principale c'est surtout des pâtes à pizza. Et en fait vous avez votre gros seau, vous prenez votre petite boule de pâte à pizza, vous l'étalez, vous mettez ce que vous aimez dessus et c'est parti, vous cuisez et c'est très rapide, c'est très super. Et avant de commencer les haricots, on va faire un petit tour au mur parce qu'il est 4h30. Donc on va faire un petit goûter. Oh là là, il y en a des belles, des grosses. Alors c'est des murs qu'on a plantés, donc ça n'a pas... C'est bon, mais ça n'a pas la saveur des murs sauvages. Mais pour un petit casse-croûte, c'est délicieux. Oh, il y en a des belles. Ah, ça y est, commence à être bien mûr. J'en avais mangé il y a quelques jours, mais c'était limite. Oh là là. Bon, allez. On va aller ramasser les haricots. Ah, c'est dur de s'arrêter. Hein. Oh là là, qu'elles sont bien mûres. Les mûres, j'adore vraiment ça. On va refaire de la confiture un peu en septembre de mûres. Donc celle-là et puis des mûres sauvages aussi. Alors, dans la serre, il y a les haricots grimpants. Donc c'est une variété super. Ça s'appelle haricots vespérales, je crois. Et en fait, c'est des haricots qui sont très bons. Et surtout qui ont la particularité, pardon, de ne pas développer de fil en fait. Même quand ils sont gros, ils n'ont pas de fil. Bon, on devait moissonner cet après-midi et puis en fait, la moissonneuse est partie ailleurs. Et puis bon, le temps était limite, je pense. Donc, il n'y aura pas de moisson cet après-midi. Donc la moisson, c'est la récolte des céréales en fait, on coupe le haut des tiges et ça passe dans la moissonneuse batteuse et ça récolte les grains. Donc nous on fait du métail pour l'autoconsommation en fait, pour donner aux moutons pendant la période d'agnelage et aux poules toute l'année. Donc notre métail il est composé de triticale, d'avoine, de pois, de vers et de févrole. Donc c'est un mélange de céréales et légumineuses qui permet de compléter la ration de foin pour qu'elle fasse du lait. Donc ça fait un petit moment que j'en ai plus dans les silos. Donc même cette année, parce que j'avais les poules et que j'avais pas augmenté la surface en céréales, j'en ai pas eu assez pour les brebis. Donc j'avais acheté en prévision du foin de luzerne bio. Et j'étais très 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 contente. Donc cette année, je vais marcher dans une crotte de de brebis. Cette année, on a pu faire du regain sur une petite parcelle qu'on avait fauché mi-mai. Et en fait, c'était une très belle repousse d'herbe et de trèfle. Donc, je pense pas. Et puis, on en a fait. J'ai mis une photo il y a quelques temps sur Instagram. On en a fait bien plus que ce que je n'avais estimé. 3 fois plus, à peu près. Donc, je pense que j'aurais pas besoin d'acheter de luzerne cette année. Nous, on va essayer d'en implanter une sur la parcelle où on a fait les patates cette année, parce qu'on a, enfin, on l'a travaillé dans le sens pour les patates, et puis le terrain et le travail permettra aussi d'implanter une luzernière. Donc c'est un tout petit carré, mais je pense qu'on peut faire plusieurs coupes et pas mal de petites bottes de luzerne. Moi, je rachète pas d'aliments pour les agneaux. Donc ils poussent à l'herbe, en fait, ils grossissent à l'herbe. Cette année, c'est une année relativement bonne pour nous, parce qu'il n'a pas fait très chaud. Là, on le voit dans les champs, c'est encore vert. Il a plu au bon moment. Du coup, en tout cas pour l'herbe et donc pour les agneaux, c'est une super année. Pour le maraîchage aussi, d'ailleurs, c'est une année agréable. On doit quand même arroser, irriguer certaines plantations, mais c'est, il y a quand même rien à voir avec l'an dernier. Bon, et ben là, encore une fois, je cherche mes brebis et je les vois pas. Bon, il faut que je fasse tout le tour, hein. Je pense qu'elles sont dans le petit paradis, là. Elles aiment bien ce coin. Donc, au niveau des brebis, et ben ça va. Elle passe un été relativement frais, donc ça c'est chouette. Et donc il reste un mois avant la mise à l'art pro, pour celles qui ont mis bas, début février. Et après on va les mettre avec les béliers. Donc cette année j'ai 2 béliers limousins et 2 béliers hampshire. Donc on va faire du pur limousin, du pur hampshire et des croisés. Ah si, elles sont là! Je voulais revenir un petit peu sur le savon parce que j'en fais beaucoup en ce moment. J'aime bien travailler cette matière. Et j'entends pas mal de choses et j'ai pas mal de questions sur ce sujet. Alors, je ne suis pas professionnelle. Ça fait quelques temps que j'en fais, mais je n'ai pas de... Enfin, ce n'est pas pour en vivre. Et deux, moi j'ai un petit peu un avis, comment dire, arrêté sur le sujet des cosmétiques. Donc le savon permet de laver, en fait, et considéré comme cosmétique. Donc ce qu'on entend par cosmétique, je vais vous donner la définition. Cosmétique, c'est relatif aux soins de beauté. Donc un cosmétique, du grec cosméo, qui veut dire je pars, genre. C'est une substance, un mélange, qui doit être mis en contact de la peau, du corps humain, de l'épiderme, du système pileux, des ongles, des lèvres, des dents, qui doit permettre de le nettoyer, de le protéger, de le parfumer et de le maintenir en bon état. Donc les cosmétiques, c'est des produits d'hygiène et d'embellissement. Moi, je mets le savon, et notamment le savon à froid, dans les cosmétiques. Ben, pas vraiment, en fait. Pour moi, ce qu'on peut demander à un savon en tout premier lieu, c'est quand même de nettoyer. Donc le fait de nettoyer peut-être vous rendre plus beau ou belle, mais je pense pas qu'il y ait derrière un traitement d'épiderme ou... Enfin, j'ai quand même des questionnements, en fait, sur l'industrie de la cosmétique, en fait, de toutes leurs promesses, de tous les produits qui sortent, la liste des ingrédients qui se rallonge, les formules miracles qui changent toutes les saisons, enfin bref. Pour moi, la base de la cosmétique, elle n'est pas dans le savon, elle n'est pas dans la crème de jour, de nuit, elle est dans l'assiette. Pour moi, c'est vraiment la base de tout. Donc, je dis pas ça parce que on est maraîcher, mais je dis ça parce que je le crois vraiment. Je pense que si vous avez une alimentation correcte, une activité physique correcte, une vie pas stressante et épanouie, je pense que les secrets de la beauté sont là. Après, je le répète, je parle pas des problèmes, des vrais problèmes de peau et tout, ça c'est autre chose, mais ça c'est plutôt dans le soin thérapeutique, et on s'éloigne de la cosmétique. Donc voilà, est-ce que j'ai raison ou pas, je sais pas, mais en tout cas c'est mon avis. Je pense que de se tartiner de détergent ou de ne rendra jamais quelqu'un beau ou belle. C'est, je pense que la beauté se situe autre part. Là, je pense que évidemment on parle de la beauté physique, mais un teint lumineux, une peau fraîche. Enfin, oui, vous pouvez. Améliorer ça avec de la crème ou quoi, je pense pas avec du savon. Je pense que le savon en fait, et le savon à froid, ça lave et ça ne fait pas les méfaits des cosmétiques nettoyants d'aujourd'hui. Mais je pense que le miracle s'arrête là en fait. Après, il y a tout ce qui est marketing en fait. Voilà, d'utiliser des huiles bonnes pour la peau, de. Je pense que ça relève beaucoup du marketing plus que d'autres choses. Vous pouvez pas demander à un savon, à une crème, de vous rendre plus jolie si vous vous sentez pas bien, si vous mangez pas correctement. Enfin, c'est un petit peu comme d'aller manger à McDo. S'il vous plaît, ne le faites pas, ne le faites plus. Et de après boire du thé vert, quoi. Vous voyez, c'est. Je pense qu'effectivement le thé vert a des vertus, mais c'est quand même difficile de contrer Monsieur McDonald's. Voilà pour la petite note polémique peut-être. Donc pourquoi est-ce que il y a toutes ces réglementations sur la cosmétique? Ça, c'est vraiment une question que je me pose et j'ai pas d'avis là-dessus en fait. J'ai vraiment pas d'avis là-dessus parce que je crois que les savons saponifiés à froid, ça représente même pas 0,5% des cosmétiques vendus. Donc c'est quand même ça représente très peu. Moi, j'étais dans le lait avant. On faisait du fromage. Et c'est vrai que les règles et les réglementations sont aussi très très strictes. C'est difficile de s'installer en lait, de créer un labo. Enfin voilà, il y a énormément de lois et de. Je suis pas sûre que ce soit utile. On parle toujours de la protection du consommateur. Pour moi, c'est un petit peu ironique parce que si on protégeait vraiment le consommateur, on faciliterait les petits artisans savonniers et il n'y aurait pas des rayons et des rayons de produits détergents chimiques et. Donc est-ce que c'est une bonne chose de réglementer à outrance? J'ai quand même l'impression que dans tous les domaines confondus, ça aide plutôt les industriels que les petits artistes. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Donc est-ce que d'avoir toutes ces réglementations, ça protège le consommateur? Ça, je pense que c'est non. Après, est-ce que ça protège la profession? Peut-être un peu. Mais comme je vous le dis, les savons à froid, c'est une part minuscule des savons en fait même. Voilà, donc c'est toujours les questions que je me pose. Voilà, j'aimerais bien connaître votre avis aussi sur la question. Est-ce que la réglementation protège les consommateurs ou pas?